Ah, nous revoilà aux amateurs de sport et qu'on entend parler du temps des fêtes de plus en plus, c'est le cas de le dire. Et justement, je sais pas ce qui vient de se passer. On vient de recevoir ça en studio. Notre commanditaire principal qui nous envoie sa pizza du temps des fêtes avec la chorale dans la boîte, ou à peu près. Donc, on vous invite à essayer la pizza de Boston Pizza, la pizza des fêtes, la pizza spéciale, toutes les saveurs d'un repas traditionnel des fêtes sur une pizza. Et en plus, vous recevez une Double Round gratuite avec votre pizza. Alors, profitez de l'ambiance festive en restaurant, en famille ou entre amis. Et voilà. Merci, chère chorale, chers amis. La musique de Noël qui est de plus en plus omniprésente. Et on s'en va maintenant retrouver notre ami Bruno Eppel pour parler de la Coupe Grey, de ce qui s'est passé sur la planète football en fin de semaine. Salut, Bruno!
Salut, Mario!
T'étais de ceux, je crois, puis je pense que c'était presque unanime. Tout le monde avait prédit la victoire au Tiger Cats d'Hamilton contre Winnipeg hier à la Coupe Grey. Et c'est pas ça qui s'est passé, Winnipeg. Mais j'avais pas réalisé que ça faisait aussi longtemps que Winnipeg avait pas gagné la Coupe Grey. Alors, un petit peu comme Calgary dans le réseau universitaire, il y avait un petit côté de moi qui était content pour eux autres.
Ben, absolument. On parle de 29 ans, 3 décennies. Écoute, ça a pas de bon sens comment ça faisait de temps. Puis du côté des Tiger Cats aussi, parce que c'était en 99. Les deux équipes étaient sur des longues disettes, mais les Blue Bombers hier, vraiment, m'ont impressionné par leur hargne, leur robustesse, leur désir de vaincre. Et ça a commencé dès le début du match. On a frappé, la première passe de Dan Evans a été interceptée. Par la suite, on est revenu sur le terrain. On a fait un sac du corps, échappé de Dan Evans, retourné par les Blue Bombers. On a marqué le toucher sur le jeu suivant avec Harris. On a pris l'avance, puis on n'a jamais regardé en arrière. C'était de toute beauté de voir cette équipe-là au niveau stratégique, au niveau intensité, robustesse, dominer une équipe que tout le monde voyait favorite pour gagner le match, celle des Tiger Cats.
Qu'est-ce qu'ils n'ont pas été en mesure de faire, les Tiger Cats, selon toi, eux, qui se sont imposés vraiment comme une puissance en saison régulière dans la Ligue, là?
Bien, la première chose qu'il fallait qu'ils fassent, c'était d'arrêter Andrew Harris. Puis ils l'ont pas fait.
Non.
Le bonhomme a fini avec 160 diverges presque d'attaques. Il a été inarrêtable, brisait constamment le premier plaqué. C'était vraiment une domination de sa ligne offensive contre le front défensif. Les Tiger Cats ont juste joué un mauvais match. Tu sais, c'est ça qui est la beauté, puis en même temps, le malheur du football, c'est que c'est pas des séries. C'est pas un 4-7, là. Fait que si tu t'adonnes à jouer un mauvais match en finale, ben, tu perds peut-être des fois contre une équipe qui est moins bonne que toi. Puis je veux pas dire que les Blue Bombers étaient moins bons. Mais quand on regardait sur papier, on avait tous tendance à dire, avec la saison que les Tiger Cats avaient connue de 15 victoires, qu'ils étaient une meilleure équipe globalement. Mais on avait oublié que tout le côté émotif, le côté désir de vaincre, puis ça, vraiment, c'est les Blue Bombers qui l'avaient hier. Et Andrew Harris a été leur leader incontesté. La défense n'a pas été capable d'arrêter, du côté des Tiger Cats, Andrew Harris. Et l'attaque des Tiger Cats, la première chose qu'il fallait faire, c'était protéger Dan Evans pour lui permettre de connaître un bon début de match. Puis malheureusement, pour le jeune corps de troisième année, sa première passe a été interceptée. 2-3 jeux plus tard, il revient sur le terrain, il se fait frapper de tout bord, tout côté, et ça s'est poursuivi. Fait qu'il n'a vraiment jamais été capable de se mettre dans son match. On a perdu les services de Brandon Banks aussi, le receveur de passe.
Hey, ça fait mal. 4.
Ça n'a pas aidé. Là.
Ben non, les retours de beauté, juste les retours de beauté, là, il peut te mettre. Écoute, il score presque un touché par match. J'exagère un peu, mais à peine.
Ben, regarde, à un certain moment donné, dans le premier quart, Dan Evans avait 5 passes complétées sur 8. Et Brandon Banks avait 5 passes captées.
ça te donne une idée
de l'importance qu'il y avait.
Quand il est parti, c'était bye-bye Coupe Grey. Rapidement, Bruno, parce que peut-être c'était un peu prématuré, mais vite fait comme ça, à ta connaissance, est-ce qu'il y a des agents libres, des joueurs, là maintenant que tout est terminé pour l'année 2019 dans la Ligue canadienne, est-ce qu'il y a des gars qui vont devenir disponibles que tu aimerais qu'ils se retrouvent à Montréal par un subterfuge quelconque ou une transaction? Ou l'autonomie.
Non, mais. Ouais, j'ai pas la liste des agents libres, mais c'est sûr qu'il est certain que les Alouettes doivent signer un chasseur de corps, là. Ça, je pense que c'est su et connu de tous. Fait que la ligne défensive des Alouettes, faut adresser ça, que ce soit avec des signatures d'agents libres ici ou des gars qu'on trouve aux États-Unis.
Aussi.
Faut pas l'oublier.
Oui, oui.
Souvent, ces gars-là vont coûter moins cher. Puis il y en a des gars avec des talents. Il faut juste avoir l'équipe de recrutement, de dépistage pour aller les dénicher. Un peu comme les Stampeders de Calgary le font constamment, un peu comme on a vu les Tiger Cats le faire avec certains joueurs qu'ils ont,
oui,
qu'ils ont joué à cette Coupe Grey-là. Fait que je pense que le dépistage est plus important que les signatures d'agents libres, parce que les signatures d'agents libres, de gros canons, souvent, ça coûte cher. Fait que, puis c'est pas toutes les semaines ou toutes les années que Willie Jefferson va être disponible, par exemple. T'sais.
Non.
T'sais, si Willie Jefferson était disponible, je dirais, hey, ce serait important qu'on le mette sur... qu'on le signe à Montréal. Maintenant, est-ce que lui désirait venir à Montréal? Ça, c'est une autre histoire. Il faut que tu les convainques de venir. Tandis que quand tu fais du dépistage aux États-Unis, que tu te promènes puis tu vas chercher des diamond in the rough, qu'on appelle, là, des joueurs moins connus, mais qui sont très bons, bien souvent, ils vont coûter moins cher. Puis souvent, c'est la seule offre de contrat qu'ils ont, fait qu'ils sont bien contents de s'en venir.
Un petit mot, une petite parenthèse en accéléré. Il y a un bon match de la NFL ce soir qu'on va surveiller, mais est-ce qu'il y a un match qui t'a particulièrement satisfait comme téléspectateur en fin de semaine? Je pense que c'était pas le match le plus spectaculaire, mais Dallas-Nouvelle-Angleterre, 13-9, as-tu appris quelque chose sur l'un des deux clubs?
Ben, est-ce que quelqu'un est surpris que Bill Belichick a out-coaché Garrett dans ce match?
Non.
Moi, c'est ce que je remarque. C'est un match qui était joué sous la pluie. Les Cowboys ne se sont jamais ajustés. À un certain moment donné, Bill Belichick a ordonné les bottées d'envoi. Tu sais, habituellement, on envoie ça dans le fond de la zone de but. Bill Belichick, avec la pluie, s'est dit, garde, on va forcer les joueurs des Cowboys à retourner les bottées d'envoi. Fait qu'on envoyait le botté très, très haut dans la pluie. Puis c'est des joueurs qui n'étaient pas habitués de capter le ballon, qui avaient à le capter. Et trois fois, le ballon s'est ramassé au sol, puis ça donnait des mauvaises positions de terrain aux Cowboys. On a bloqué un botté sur les unités spéciales du côté des Patriots. Dans un match où il pleuvait, où l'attaque pourrait être difficile de se mettre en marche des deux côtés, bien, les Pats ont dominé sur les unités spéciales, puis ont trouvé le moyen de gagner, alors que les Cowboys, encore une fois, selon moi, étaient mal préparés pour les conditions qu'on a vues.
Les Rams menacés d'être écartés des séries cette année contre les Ravens, ça devrait être un bon affrontement, mais Los Angeles ne peut plus perdre.
Bon, je suis 100% d'accord, parce qu'ils sont 6 victoires, 4 défaites. Puis pour faire les éliminatoires, en ce moment, là, l'équipe qui rentre, la dernière, elle a 8 victoires. Fait qu'on a absolument besoin de gagner ce match ce soir contre une équipe qui est carrément en feu, celle des Ravens, avec 6 victoires d'affilée. Lamar Jackson et son attaque au sol qui s'amène. La bonne nouvelle pour les Rams, c'est que Brandon Cook revient au jeu en attaque. On va avoir des unités complètes offensivement pour la première fois depuis longtemps. Donc, une menace profonde qui s'ajoute. Ça pourrait pas nuire. Todd Gurley a demandé d'avoir le ballon plus souvent. J'ai hâte de voir si McVay va réaliser son souhait, mais je pense qu'il y aurait avantage à le faire si on veut l'emporter face aux Ravens.
Eh bien, bon match, Bruno. Merci beaucoup. On se reparle bientôt.
Yes! Salut tout le monde. Bonsoir.
Bye-bye. Je vous rappelle que les balados sorties de zone, j'ai fait allusion tout à l'heure, qu'on fait en collaboration avec la presse, sont disponibles pour écoute et téléchargement sur les sites web et applications du 98.5 FM, ainsi que sur les plateformes Apple et Google Balado. Bonne écoute. On a toujours bien du plaisir. Dans un instant, résumé des propos de Jeff Molson aujourd'hui.